Nous pourrions faire la lecture du psaume 42. Psaume 42, au chef de musique, instruction des fils de Corée. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes ont été mon pain jour et nuit, quand on me disait tout le jour, où est ton Dieu? Je me souvenais de ces choses, et je répandais mon âme au-dedans de moi, comment j'allais avec la foule et je m'avançais en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fait. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Et es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Sa face est le salut. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mitzéar. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. De jour, l'Éternel commandera sa bonté, et de nuit, son cantique sera avec moi, ma prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi marchais-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi? Mes adversaires m'outragent comme un brisement dans mes os, quand ils me disent tout le jour, où est ton Dieu? Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est le salut de ma face et mon Dieu. Nous pouvons peut-être rappeler tout d'abord que le livre des psaumes est premièrement un livre prophétique. Et comme tel, il traite essentiellement du peuple d'Israël et ici particulièrement des épreuves, des souffrances du résidu entre le moment où l'Église aura été enlevée et la venue du Seigneur Jésus pour régner. C'est la période couverte par la dernière semaine de Daniel. Alors le sujet donc de ce livre des psaumes, c'est tout d'abord Israël, Juda et Israël, et Juda et Israël dans leur rapport avec le Messie, avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, et cela a peut-être été, c'est une chose que nous savons sans doute tous les uns et les autres, il y a dans le livre des psaumes des expressions qui sont de nature à nous surprendre, par exemple des appels à la vengeance contre les ennemis du peuple de Dieu, de tels appels dont nous comprenons parfaitement que le chrétien, placé sous dans la période de la grâce, ne peut en aucune manière les prononcer lui-même. Nous sommes, et nous avons à le rappeler, avec beaucoup de reconnaissance, des objets de miséricorde. Et alors, puisque chacun de nous peut dire ici, comme l'apôtre Paul, « Miséricorde m'a été faite », il nous appartient à nous aussi, bien sûr, d'user de cette même miséricorde dont il a été usé envers nous, manifester ainsi quelque chose de l'amour de Christ notre Sauveur. Nous savons aussi que le livre des psaumes est divisé en 5 parties, 5 livres, et nous savons que chacun de ces livres a un sujet particulier. Et comme nous le disions tout à l'heure, en relation avec l'histoire d'Israël, pendant cette dernière semaine prophétique de Daniel, c'est la semaine, rappelons-le, qui précède l'établissement du règne. Alors, le premier livre des psaumes nous présente précisément nous parle d'Israël avant, Israël dans le à Jérusalem, Juda à Jérusalem, disons plus pour être plus précis, qu'il s'agit de Juda, et qui est à Jérusalem au moment où le temple a été reconstruit et où un culte est établi pour Dieu. Quel est ce temple? Nous pouvons nous demander si c'est véritablement le dernier temple qui doit être construit à Jérusalem, ou le dernier temple qui sera construit, nous le savons, c'est celui d'Ézéchiel. Pouvons-nous poser la question peut-être de savoir si le temple dont il est question dans ces psaumes est bien celui-là. Ce n'est pas notre sujet de nous étendre sur ce point. Ensuite, au deuxième livre, le résidu fidèle, donc le résidu fidèle de Juda, se trouve chassé de Jérusalem. Nous arrivons à la deuxième moitié de cette dernière semaine, et cela correspond au temps dont parle le Seigneur Jésus dans Matthieu 24, 25, lorsque l'idole est placée dans le temple, l'abomination, ce qui est appelé l'abomination qui cause la désolation, l'alliance qui a été conclue entre le peuple juif et la puissance romaine est rompue par elle, par la puissance romaine, et le peuple résidu fidèle va s'enfuir en grande partie de Juda et de Judée et de Jérusalem. Il semble qu'ils doivent rester quelques fidèles encore à Jérusalem, même pendant cette période terrible qui précède alors le retour du Seigneur et qui est celle et qui est appelée la grande tribulation ou encore le temps de la détresse de Jacob. Alors, il n'est pas inutile de lire peut-être ce que nous dit le prophète Daniel à cet égard dans les derniers chapitres du livre. Nous avons en Daniel 9, nous pouvons commencer la lecture au verset 25. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire au total 69, la place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Alors nous comprenons bien que ces 7 semaines plus 62 semaines courent la période et qui s'écoule entre le retour des Juifs à Jérusalem et la mort du Seigneur Jésus. Le Messie est retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin sera avec débordement, et jusqu'à la fin il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine. Alors il y a, comme nous le trouvons souvent dans les écrits prophétiques, toute une période qui est entièrement passée de côté, qui est entièrement laissée de côté. Cette période que nous appelons volontiers la parenthèse de la grâce. Et c'est pourquoi, sans transition, nous passons de la destruction de Jérusalem par les armées de Titus à l'alliance que contracte la même puissance romaine avec les Juifs qui sont rentrés en Palestine. Et c'est ce qui est appelé, c'est ce que nous trouvons ici au verset 27, « Il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine, c'est-à-dire 1 semaine d'année. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée. » Un peu plus loin dans ce... Nous lirons un peu plus loin dans ce même livre de Daniel, tout à l'heure, en relation avec un autre caractère de ces psaumes qui sont devant nous. Alors ensuite, nous avons les 3 autres livres des psaumes. Il y a donc le 3e livre où il est question d'Israël dans son ensemble. Dans le 4e livre, nous trouvons les caractères du règne de Christ et la louange, et puis le dernier livre, comme cela est souvent le cas dans la parole, est une conclusion générale, et il se termine par la louange qui monte vers Dieu. Nous avons quelques remarques à faire encore avant de nous arrêter un moment sur le psaume lui-même, sur ce que nous trouvons en suscription de ce psaume, psaume d'instruction et des fils de Corée. Que sont les psaumes d'instruction ? Ils constituent, au travers du livre des psaumes, une série particulière, une série spéciale. Nous trouvons le premier psaume d'instruction, qui d'une manière remarquable est le psaume 32 dans le premier livre. Dans le second livre des psaumes, nous en trouvons 7, 3 qui sont attribués aux fils de Corée, et 4, les 4 derniers psaumes d'instruction du livre, qui sont attribués à David. Nous devons en avoir dans le troisième livre, nous n'en avons pas dans le quatrième, et nous en trouvons enfin un, le dernier, le psaume 142, sauf erreur, dans le cinquième livre des psaumes. Alors, que sont les psaumes d'instruction ? Les psaumes d'instruction ou pour instruire, c'est la traduction, nous a-t-on dit, d'un mot hébreu, maskil, qui signifie précisément instruire, et les psaumes d'instruction sont donc ce qu'on appelle aussi les maskilim au pluriel, et ils désignent à la fois les psaumes pour instruire, ceux qui les ont reçus et qui ont reçu l'instruction de leur part, et qui vont ensuite, troisièmement, être capable de communiquer cette instruction aux autres. Et c'est ce que nous trouvons donc dans le livre de Daniel. Ils sont appelés là les sages qui vont communiquer la sagesse et la parole de Dieu aux résidus pour le fortifier dans ces terribles moments qu'il va avoir à traverser, cette période de la détresse de Jacob. Alors nous avons au chapitre 11 de Daniel, au verset 33, les sages du peuple enseigneront la multitude, ou les plusieurs, comme nous le voyons en note, et ils tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage, plusieurs jours. Et puis verset 35, d'entre les sages, il en tombera pour les éprouver ainsi, et pour les purifier et pour les blanchir jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour le temps déterminé. Et alors nous allons retrouver ces sages tout à fait à la fin du livre de Daniel, au verset 3 du chapitre 12. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Voilà donc ici défini dans ces quelques passages ce que sont les sages et ce qu'est leur rôle. Ils reçoivent donc l'instruction par le moyen de ces écrits prophétiques, de ces psaumes particuliers dont nous venons de parler, nous ajoutons qu'ils sont au nombre de 13 au total, et par la sagesse, l'intelligence qu'ils auront de ces psaumes, ils vont donc à leur tour enseigner, encourager, consoler leurs frères pendant cette période donc de la grande tribulation. Il est remarquable aussi, nous pouvons le dire en passant, que le premier des psaumes d'instruction soit le psaume 32, qui est le psaume dans lequel la grâce de Dieu en pardon est révélée à tous ceux qui croient, à nous-mêmes, mais aussi et d'une manière particulière aux résidus d'Israël. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Et nous pouvons penser qu'au milieu de leur souffrance, une souffrance incomparable, que nous dit le Seigneur Jésus au sujet de ces moments-là ? Il nous dit que ce sera un temps de tribulation tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis le commencement du monde, et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Et il ajoute, et nous avons toujours la grâce de Dieu. Si ce temps n'eût été abrégé, aucune chair n'eût été sauvée. Alors nous voyons que, même lorsque Dieu, même lorsque le Seigneur agit en jugement, en discipline, eh bien, il mesure parfaitement la durée de l'épreuve. Nous connaissons tous cette pensée qui est exprimée dans l'épître adressée à Smyrne, dans le livre de l'Apocalypse. Voici, tu vas traverser une tribulation de 10 jours, un temps qui est compté, un temps qui est mesuré, et dont le Seigneur a soigneusement limité la durée, sachant que c'est exactement ce qu'il faut pour atteindre son but, ni plus ni moins. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nous avons lu tout récemment ici dans l'Épître aux Hébreux ce commencement du chapitre 12. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Nous pensons que précisément le résidu fidèle, ce résidu de Judas va être appelé, nous l'avons lu dans le livre de Daniel, à résister jusqu'au sang. Plusieurs de ces sages vont être mis à mort et tout cela en résistant contre le péché, c'est-à-dire dans le cas particulier, contre le peuple apostat d'une part, contre les nations d'autre part, et qui sont conduites par l'ennemi du peuple de Dieu, cet ennemi qui se manifeste tout au long de l'histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu, et qui, par le moyen du peuple, vise toujours le Seigneur lui-même. Alors, si nous revenons à notre psaume, c'est donc un psaume d'instruction, psaume 42. C'est le premier, donc, de cette période dont nous avons lu quelque chose dans Daniel, qui commence donc à l'expiration de la septième demi-semaine, au bout de 3 semaines et demie, la puissance romaine rompt brusquement l'alliance qu'elle avait établie avec le peuple, avec Judas, les Juifs retournés en Palestine, et elle veille à ce que soit placée dans le temple cette idole qui cause la désolation. Et alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le début de cette période qui est appelée la détresse de Jacob. Il est remarquable que ces psaumes-là, ces psaumes d'instruction, les 3 premiers que nous avons ici, soient attribués donc au fils de Corée, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Disons en passant aussi que les 4 derniers qui sont attribués à David parlent essentiellement du méchant, c'est-à-dire de l'Antichrist, et de ceux qui sont avec lui. Et nous comprenons quelque peu, en lisant ces psaumes, quelque chose de la douleur, de la souffrance du peuple, du résidu fidèle, parce qu'il nous faut bien comprendre qu'il y a là une masse apostate, et puis un résidu fidèle. Nous comprenons la souffrance du fidèle lorsqu'il voit l'ennemi agir pratiquement sans restriction au milieu de Jérusalem et du pays de la promesse. Les fils de Corée, c'est un nom sur lequel il est bon de s'arrêter. Nous connaissons l'histoire de Corée et de sa méchante assemblée. Corée, fils de Jitsear, était un Kehathite. Et nous lisons qu'il s'est élevé dans son cœur contre Aaron, contre Moïse, au sujet de la sacrificature, désirant s'emparer de ce service et contestant la décision, la volonté de Dieu d'avoir confié ce service à Aaron et à ses fils, la famille sacerdotale. Aaron et ses fils étaient certes, nous le savons aussi, des Kehathites, mais ils avaient été choisis par Dieu d'une manière toute particulière pour exercer la sacrificature en Israël. Et Corée s'élève dans son esprit et conteste donc contre Moïse et contre Aaron. Connaissons cette histoire que nous trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 16, je crois, et où nous voyons comment se termine cette épouvantable rébellion. L'Éternel fait une chose extraordinaire, quelque chose qui n'a jamais été vu encore sur la terre, alors que le peuple s'est séparé de Corée et de sa méchante assemblée, la terre ouvre sa bouche et engloutit Corée et tous les siens, tout ce qui est à eux. Et alors, un peu plus loin, dans ce même livre des Nombres, nous lisons de ces paroles qui touchent nos cœurs parce qu'elles nous présentent encore les témoignages de la grâce de Dieu. Les fils de Corée ne moururent pas. Alors, voilà quelques-uns qui ont échappé à ce terrible jugement. Il ne nous est pas dit pourquoi ils ne moururent pas. Cela est laissé, je pense, à l'appréciation de nos cœurs. Nous pourrions, en quelque sorte, dire comme le psalmiste, « Mon cœur a dit pour toi. » Mon cœur répond pour notre Dieu et Père, pour la miséricorde de Dieu. Nous pouvons bien dire « Mon cœur a dit pour toi. » Eh bien, s'ils ont été épargnés, c'est que d'abord tu connaissais leur cœur, et que tu as fait miséricorde, parce que tu es le Dieu qui fait miséricorde, le Dieu qui est plein de blanc à la colère et grand en bonté. Les fils de Corée ne moururent pas. Alors nous ne sommes pas surpris à ce moment-là de les trouver parmi les auteurs de ces psaumes. Ils sont ceux qui ont éprouver d'une manière toute particulière la miséricorde de Dieu, et ils vont donc bien être tout à fait qualifiés pour présenter au peuple dans son épreuve, aux résidus fidèles dans son épreuve, le Dieu de miséricorde et de compassion, celui qui seul peut les épargner, celui qui seul peut les amener jusque à l'accomplissement, à la jouissance de toutes les promesses qui ont été faites au Père dans le règne du Seigneur Jésus. N'oublions pas, lorsque nous parlons du peuple juif, que sa bénédiction, que ses espérances sont des espérances terrestres. C'est le règne de Christ sur la terre, c'est le millénium, c'est la jouissance de tout le pays que Dieu avait promis à son peuple de lui donner et dont il n'est jamais entré en possession, comme nous le savons. Ce qu'Israël a pu conquérir, nous le lisons dans le livre de Josué, ce qu'Israël a pu conquérir de ce pays qui lui avait été promis n'est qu'une très petite partie de ce que Dieu avait la pensée de lui donner, mais de ce que Dieu lui donnera. Car en cela aussi, comme en toute chose, les dons de grâce de Dieu, l'appel et l'appel de Dieu sont sans repentir. A-t-il dit et n'accomplira-t-il pas ? Alors les fils de Corée sont donc tout à fait qualifiés pour présenter les consolations, les encouragements aux résidus d'Israël et pour lui dire, voyez, en quelque sorte, lorsque les fidèles dans ces périodes troublées liront et comprendront qu'il leur sera donné à comprendre ces psaumes d'instruction et qu'ils verront que ce sont des psaumes des fils de Corée, cela rappellera leur cœur, qu'ils n'ont pas à craindre une entière destruction, mais que la miséricorde de Dieu leur est acquise pour les sauver. Nous savons d'ailleurs que même parmi ce résidu fidèle, il y en a beaucoup qui seront mis à mort. Ce résidu lui-même sera éprouvé, sera réduit à peu de choses, un petit nombre. Mais il restera quand même pour accueillir le Messie, pour accueillir le roi qui va venir régner sur la terre. Il restera alors quand même un peuple préparé pour lui. Et qu'est-ce qui va caractériser ce peuple ? C'est un peuple abaissé et humilié. Bien, chers frères et sœurs, est-ce que cela ne parle pas à nos cœurs ? Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous éprouve, et il veut se manifester, pour qu'il se manifeste pleinement à nous, en parfaite délivrance, il attend de nous que nous soyons, non pas en parole, non pas pour quelques instants, fugitivement, mais d'une manière profonde et durable, un peuple abaissé et humilié. Alors, nous avons dit que ce psaume, le deuxième livre, nous présente donc le résidu qui a dû fuir Jérusalem et la Judée. Une fuite très rapide, comme le dit le Seigneur Jésus. Sitôt que vous verrez ces choses, l'abomination de la désolation, fuyez immédiatement, sans perdre un instant. Que celui qui est sur le toit ne retourne pas dans la maison, que ceux qui sont aux champs s'enfuient, il faut que vous partiez immédiatement. Et priez, dit-il, afin que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Et malheur à celles qui sont enceintes. Ces paroles du Seigneur sont là pour nous montrer, pour montrer aux résidus quelles vont être les conditions redoutables dans lesquelles ils vont avoir à fuir devant la tribulation et qui va tomber sur eux. Et c'est de cette tribulation qu'il est question ici. Et alors ce psaume, nous pouvons dire qu'il se divise en deux parties, chacune d'entre elles ayant la même conclusion, c'est-à-dire verset 5 et verset 11, « Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et es-tu agité au-dedans de moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. » Alors il y a une petite variante dans le dernier mot, « Sa face est le salut », verset 5, et « Il est le salut de ma face et mon Dieu », verset 11. Les deux premiers versets de ce psaume nous montrent quelle va être essentiellement la plus grande souffrance de ce peuple lorsqu'il va se trouver chassé de Jérusalem et de Judée. « Mon âme, comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» Ils ont quitté tout ce sur quoi leur foi, pouvons-nous dire, s'appuyait. Jérusalem, cette ville qui est si précieuse au cœur des Juifs, si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais, et il dit, si je ne mets Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Et puis il y a le temple qui est la maison de Dieu, et qui est appelé dans ce psaume aussi encore la maison de Dieu. Alors nous pouvons nous poser des questions au sujet de cette maison de Dieu, parce qu'enfin, que va-t-il se passer plutôt dans ce temple? Il y a quelques fidèles, mais il y a aussi une masse apostate. Il y a un culte qui est rendu à Dieu, certes, le sacrifice et l'offrande, dont il est question dans le livre du prophète Daniel, mais où en sera la réalité? Mais cela demeure la maison de Dieu jusqu'au moment où l'abomination de la désolation y est placée, jusqu'au moment où, d'une manière officielle en quelque sorte, Dieu en est chassé. Et pourquoi pouvons-nous dire que cela demeure la maison de Dieu? Eh bien, c'est parce que les choses sont exactement comme au temps où le Seigneur Jésus était sur la terre. Et en quels termes le Seigneur parle-t-il de ce temple de Jérusalem? Il l'appelle la maison de mon Père. La maison de mon Père qui devait être, dit-il, une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais enfin, c'était la maison de son Père. Et les disciples, après même la résurrection du Seigneur, après son ascension, continuaient au tout début de la période chrétienne à se rendre au temple pour prier. Et nous savons quels prodiges, quels miracles ont pu être faits dans ce temple de Jérusalem. Au début du livre des Actes, nous voyons la guérison de cet homme qui était impotent et que Pierre et Jean vont guérir. Cet homme qui les regarde, attendant quelques dons, quelque argent de leur part. Et quelle surprise pour lui. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent. Alors nous imaginons un instant la déception de cet homme. Vous vous approchez de moi comme si vous alliez me donner quelque chose, et puis vous venez me dire, je n'ai pas d'argent. Mais alors, il y a les admirables paroles de la grâce de Dieu. Ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et voilà un homme qui entre dans le temple, avec Pierre et Jean en sautant, guéri, heureux, par la puissance de Christ. Alors cela pour dire que, le temple demeurait, ainsi et non sans quelque raison, précieux, au cœur du résidu. C'était là que malgré tout le sacrifice et l'offrande étaient offerts. D'une manière très imparfaite, certes, nous nous en doutons bien, parce que déjà au temps du Seigneur Jésus, s'il y avait un lieu très saint, caché derrière le voile, il n'y avait rien derrière ce voile. Nous savons, c'est un des traits tout à fait caractéristiques de cette période qui a suivi le départ de la gloire. Comme nous le voyons en Ézéchiel, quand le Seigneur a quitté le temple et que le temple a été ensuite détruit, et puis jusqu'au moment où le temple d'Hérode a été détruit, il y avait là un temple, et même le temple d'Esdras, où il n'y avait pas l'arche. Le lieu très saint ne contenait rien. Pourquoi? Parce que le peuple était sous la sentence de Lo-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple. Alors, nous pouvons nous demander pourquoi les fidèles juifs continuaient à venir offrir un culte et des sacrifices dans un tel temple. Nous pouvons nous demander ce qu'ils pouvaient y trouver, puisque l'arche n'étant plus là, ni le propitiatoire, il ne pouvait plus y avoir non plus ce jour des propitiations dont nous avons parlé ici même il y a quelques jours, puisque pour que toutes les cérémonies du grand jour des expiations puissent se dérouler, il fallait que le sang puisse être porté à l'intérieur du voile et aspergé devant et sur le propitiatoire. Mais alors, eh bien, nous pouvons penser que ce peuple, revenu sous Esdras, était un peuple humilié, un peuple qui acceptait la sentence de son Dieu, qui se courbait sous elle, qui acceptait la discipline sous laquelle il était placé. Un peuple qui, avant la lettre en quelque sorte, accomplissait ce que l'apôtre Pierre peut nous dire, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Quand nous sommes placés sous la discipline, que convient-il de faire? Nous n'avons rien d'autre à faire qu'à nous courber sous la main de celui qui nous la dispense. Nous avons lu aussi tout récemment, ici même, cette dernière semaine, ce qui concerne la discipline dans le 12 des Hébreux. Et c'est bien là un des précieux sujets, un précieux sujet de méditation pour chacun de nous, et particulièrement dans les temps que nous traversons. Celui que le Seigneur aime, il le discipline. Et puis nous avons cité ce passage, adressé donc à une assemblée dans le livre de l'Apocalypse, la Odyssée, je crois. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et c'est infiniment précieux de trouver cette pensée, cette parole adressée à la Odyssée, lorsque nous voyons ce que la Odyssée représente pour le cœur du Seigneur. Pensez que même là, il y a ceux qu'il aime, et que par conséquent, parce qu'il les aime, il les reprend et il les châtie. Alors, lorsque nous sommes repris et châtiés par le Seigneur, ne perdons pas courage, mais souvenons-nous qu'il le fait parce qu'il ne nous a pas abandonnés, parce qu'il nous aime. La pire des choses, si je puis ainsi parler, serait que le Seigneur nous laisse à nous-mêmes. Donc, deux premiers versets, c'est le résidu se trouve hors de Jérusalem, privé de tout ce qui a constitué en quelque sorte l'appui de sa foi, et que va-t-il lui rester? Eh bien, il va découvrir, et c'est là le but de cette première forme d'épreuve que nous trouvons jusqu'au verset 4 de notre psaume, il va se voir retirer par son Dieu tout ce sur quoi jusqu'à présent il s'était extérieurement appuyé. Et que va-t-il lui rester? Il va lui rester Dieu seul. C'est le but excellent, pouvons-nous dire, de cette première forme de discipline. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quelle chose étrange que nous ayons besoin d'épreuves, de discipline, d'être privés de telle ou de telle bénédiction pour comprendre, dont nous avons joui un certain temps, pour en comprendre tout le prix. Comprendre pour ce résidu chassé de Jérusalem toute la valeur, toute la grandeur du privilège qu'il avait de connaître Dieu et de le connaître comme le Dieu vivant. Celui qui pourvoyait aux besoins de son âme, aux besoins de son cœur. En quelque sorte, il n'avait pas réalisé cette soif dont il est question ici, avoir soif de Dieu. Et c'est bien l'une des choses que nous pouvons souhaiter ardemment pour nous-mêmes, cette soif de Dieu et du Dieu vivant. Le Dieu vivant, de quoi cela nous parle-t-il? Eh bien, nous pouvons penser à ce que nous trouvons au début du livre du prophète Jérémie. Mon peuple a fait deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, premier des maux, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, qu'est-ce qui va étancher la soif de ceux qui ont creusé de telles citernes et qui ont rejeté le Dieu vivant, celui qui est la source des eaux vives, qui l'ont abandonné? Alors, pour le résidu, eh bien, il va s'apercevoir de ceci, il va apprendre cette leçon si heureuse et si bénie pour son cœur, que même si extérieurement, il est privé donc des privilèges dont il avait joui jusqu'à présent, il lui reste ce qui est essentiel, et il nous faut apprendre que c'est cela qui est essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le but des épreuves que nous pouvons traverser est sans doute toujours le même aussi. À quoi nous sommes-nous attachés? Mes larmes ont été mon pain jour et nuit, quand on me disait tout le jour, où est ton Dieu? Je me souvenais de ces choses. Nous avons ici une première expression des souffrances, donc, de ceux qui sont chassés de Jérusalem. Et d'où leur vient cette souffrance? Ce sont des moqueries qui leur sont adressées par leurs ennemis. Et ici, nous pouvons le penser de manière particulière par les ennemis extérieurs à Israël, par les nations. Au psaume suivant, le psaume 43, dont la conclusion est d'ailleurs la même que celle du 42, nous voyons qu'il s'agit des souffrances que le peuple, qui est le résidu, connaît, de la part de l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire le peuple apostat et le méchant. Prends en main ma cause contre une nation sans piété, la masse apostate, et délivre-moi de l'homme trompeur et inique, le méchant, c'est-à-dire l'antichrist. Mais alors ici, ce sont donc les nations qui se moquent du résidu qui est chassé de Jérusalem. Comment? Où est ton Dieu? Vous vous êtes confié en lui? Vous avez cru que vous étiez véritablement les objets de la grâce et de l'amour de ce Dieu? Et puis voilà que maintenant vous êtes dispersés vous aussi, vous n'avez plus rien. Où sont donc vos espérances?
Qu'en est-il de Jérusalem? Vous étiez si fiers d'être le peuple de Dieu, si fiers de demeurer à Jérusalem, si fiers d'avoir au milieu de vous le temple et les sacrifices, et maintenant vous n'avez plus rien de tout cela. Où est ton Dieu? Alors, nous allons trouver une réponse à cette question, pour cette première question, nous pouvons la trouver au psaume 115, où nous voyons qu'il nous est dit qu'il est dans les cieux. Et cela nous amène aussi précisément à un exercice analogue que nous trouvons au premier livre des psaumes, au psaume 11. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Et quelle est la réponse? L'Éternel est dans la demeure de sa sainteté. Ses yeux voient, ses paupières sondent les fils des hommes. Alors lorsque tout ce sur quoi nous nous confions, ce sur quoi nous avons eu l'habitude de fonder peut-être dans une trop large mesure notre foi, notre paix, notre bonheur, lorsque ces choses-là nous sont enlevées, que reste-t-il? Qu'est-ce que nous devons apprendre par cela? Nous devons apprendre que Dieu nous reste fidèle et notre seule ressource. Où est ton Dieu? Je me souvenais de ces choses. Et alors, le psalmiste détaille précisément ce qui constituait son bonheur. Je me souvenais de ces choses et je répandais mon âme au-dedans de moi, comment j'allais avec la foule, et je m'avançais en leur compagnie avec une voix de triomphe et de louange jusqu'à la maison de Dieu. Une multitude en fait. Alors qu'y avait-il là? Eh bien, premièrement, voyons que le psalmiste répandait son âme au-dedans de lui. Il était en quelque sorte son propre centre. Il pensait à lui, à la joie qui était la sienne, aux bénédictions qui étaient les siennes. C'est une chose très bonne, ce serait manifester beaucoup d'ingratitude que de ne pas nous réjouir dans les bénédictions dont nous sommes bénis. Lorsque nous lisons le début de l'Épître aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il n'y a pas de bénédiction plus élevée que celle-là. Et alors il est tout à fait heureux, et il serait infiniment regrettable, que nous ne nous réjouissions pas dans de telles bénédictions. Mais c'est la leçon que nous avons à apprendre par l'intermédiaire de ces expériences du peuple terrestre de Dieu. Et la leçon que nous avons sans doute aujourd'hui à apprendre en assemblée, chers frères et sœurs, eh bien c'est celle-ci. Revenons, réfléchissons un moment, examinons, considérons bien nos voies, comme nous le trouvons dans l'expression que nous trouvons à ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il nous éprouve de la manière que nous connaissons. Sur quoi nous sommes-nous appuyés? Sur quelles ont été véritablement nos joies? Il faut arriver à cette expression que nous trouvons dans le psaume 73, je crois. « Qui ai-je dans les cieux? Et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. » Notre frère, M. Darby, disait que « Il nous faut apprendre que tout, excepté Christ, n'est rien. » Et il ne faisait qu'exprimer là, de cette manière, cette pensée qui est dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, à l'égard du Seigneur Jésus, qu'il est en toute chose, lui, la première place. Il a la première place dans les conseils de Dieu. Il a la première place dans toute la création. Il est le premier-né. Il doit régner. Toutes choses vont lui être assujetties. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, lui-même aussi, sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, et Dieu sera tout et en tous, nous arrivons à l'état éternel. Mais tout repose sur la gloire de Christ, sur les pensées de Dieu à l'égard de Christ, sur ce fait qu'il est prééminent, qu'il est le premier en toutes choses. Alors, si Christ est tout cela pour Dieu, pour le Père, que doit-il être pour nous? Et c'est précisément ce que nous avons peut-être si facilement tendance à oublier, et ce que, dans sa miséricorde, tout près du moment où le Seigneur va venir, comme nous l'avons chanté dans notre cantique, eh bien Dieu veut nous le rappeler cela. Dieu veut nous dire, maintenant, préparez vos cœurs, préparez-vous pour le retour du Seigneur, préparez-vous pour le retour de mon bien-aimé. Mais alors, pour que vous soyez prêts pour le recevoir, eh bien veillez à éliminer de vos cœurs tout ce qui lui ravit la place qui lui est due, c'est-à-dire la première. Comment l'Église, comment l'épouse pourra-t-elle dire « Seigneur Jésus, viens » si lui, si Christ n'a pas dans nos cœurs, dans le cœur de l'épouse, précisément cette première place? Comment peut-on désirer de le voir si il n'est pas véritablement l'objet précieux de nos pensées et de nos cœurs. Alors le Seigneur Dieu travaille dans nos cœurs par ce moyen-là, par le moyen des épreuves que nous rencontrons. Il nous enseigne. La discipline est tout d'abord un enseignement, comme nous l'avons rappelé, un enseignement dont sont bénéficiaires les fils, les enfants, ceux que le Père veut élever jusqu'à lui, pour que nous participions à sa sainteté. Il y avait donc ceci, le psalmiste répandait son âme au-dedans de lui, et puis alors il parle ensuite de ce qui précisément réjouissait son cœur, ces moments où ils allaient en foule à la maison de Dieu, une multitude en fait. Et alors voyez, nous comprenons bien, nous imaginons très bien ce que cette scène à laquelle le psalmiste ici fait allusion. Nous voyons toute cette foule qui monte vers la maison de Dieu, et sur qui est-ce que les regards du psalmiste étaient posés? Mais précisément sur cette foule, sur cette multitude en fait. C'est certainement une chose très heureuse que de voir une multitude qui se dirige vers la maison de Dieu et qui se dirige là avec bonheur, avec joie. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Est-ce que cette joie est une joie simplement extérieure, une forme, ou est-ce que c'est une joie profonde qui vient du cœur? Là, nous apprenons que c'était autre chose et que précisément, cette illusion, en quelque sorte, doit être bannie du cœur du résidu. Et pourquoi? Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pour qu'il réalise que le besoin de son cœur, que la joie de son cœur, il ne peut les trouver qu'en Dieu. Alors il se pose ensuite cette question, « Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et es-tu agité au-dedans de moi ?» Et nous avons là deux états de l'âme, deux états du cœur, l'abattement. Ne perds pas courage quand tu es repris par lui. On peut être découragé sous la discipline, se dire, mais enfin, nous ne voyons pas d'issue à la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors nous n'avons plus qu'à être désespérés. Ou alors, il y a l'agitation et c'est tout le contraire. Et on se dit, eh bien, mais puisque nous sommes dans une telle épreuve, dans une telle difficulté, il faut absolument faire quelque chose. Et alors on s'agite, on parle, on se réunit, que sais-je encore. Et la réponse à ce double état nous est donnée aussitôt, « Attends-toi à Dieu ». Et alors là, nous sentons toute la paix, tout le repos, tous les encouragements qui sont donnés à l'âme à partir du moment où elle peut s'adresser à elle-même cette exhortation, « Attends-toi à Dieu ». Et puis pourquoi? Car je le célébrerai encore, sa face et le salut. Alors nous voyons que ce qui était quand même précieux, ce qui est précieux au cœur du résidu, ce qui est précieux au cœur de tout enfant de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de pouvoir rendre culte à Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus précieux pour nous? C'était précieux pour Israël, sans aucun doute, et ça le sera encore. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'y a-t-il de plus précieux pour nos cœurs que ces instants où le Seigneur Jésus nous réunit autour de lui pour rendre culte à son Dieu et Père en esprit et en vérité? Nous avons tous, nous éprouvons tous sans doute cette joie-là lorsque nous nous rendons autour du Seigneur, là où il nous invite, et pourquoi nous réunissons-nous? L'apôtre Paul nous donne un résumé de ce qu'est le culte, un résumé en quelques mots, alors que nous étions réunis pour la fraction du pain. Et nous savons bien que la fraction du pain, c'est le moment central du culte. C'est le moment où nous nous souvenons ensemble par grâce des souffrances et de la mort du Seigneur. Alors c'est le souvenir qui est pour nous. Le Seigneur Jésus nous le dit en instituant ce repas. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Mais nous ne pouvons pas oublier, alors que nous célébrons la scène du Seigneur, que nous recevons de sa main ces signes qu'il nous donne à nous, pour nous, nous ne pouvons pas oublier la part du Père, la part de Dieu dans cette célébration. Pourquoi et comment? Comment justifions-nous cela? Eh bien, nous pensons que lorsque nous lisons l'institution de la scène et que nous entendons le Seigneur, qu'il nous ait dit plutôt de lui que, ayant pris un pain, il bénit et il le rompit. Et puis, de même aussi, la coupe après le souper, après avoir rendu grâce. Alors nous avons là deux actions de grâce qui sont adressés, bien entendu, à Dieu, adressés au Père. N'avons-nous pas quelquefois regretté que
Les paroles que notre Seigneur a prononcées là ne nous aient pas été conservées. Dans sa sagesse, l'Esprit de Dieu ne nous les a pas données. Nous pouvons voir une raison, précisément, dans ce fait que ces actions de grâce, cette bénédiction, étaient pour le Père. C'était le cœur du Fils qui s'est penché devant son Père. C'était un encens, cet encens composé, cet encens parfait, qui ne pouvait être contrefait, qui montait ainsi du cœur de Christ vers son Père, au moment même où il instituait la scène qui est pour nous. Alors il y a la part du Père, ici, dans ses actions de grâce, nous la trouvons aussi, je pense, mais alors sous le caractère plutôt, me semble-t-il, du sacrifice de prospérité, dans le cantique, dans l'hymne, que le Seigneur chante avec ses disciples avant de sortir, ayant chanté une hymne. Alors la louange du Seigneur monte vers son Père, mais il y associe les siens, et c'est une précieuse expression de communion. Ce don, comme nous le savons bien, nous l'avons redit, je crois, au cours de ces derniers entretiens, ce don, le sacrifice de prospérité ou sacrifice de paix, est une image si heureuse, si bénie pour nos cœurs. Alors nous arrivons ensuite à la deuxième partie du psaume. « Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mitsehar. » Et alors là, nous aurions pu nous dire, mais à la fin de cette première partie, mais le psalmiste, le résidu, le fidèle, il a appris tout ce qu'il avait à apprendre. Il a appris qu'il faut qu'il s'appuie sur Dieu. Il a appris que tous les supports sur lesquels il s'appuyait lui ont été ôtés pour que Dieu seul reste. Et à ce sujet, je voudrais rappeler une parole de nos chers frères, notre frère Louis Chaudier, au sujet de la deuxième épître à Timothée. Il nous disait, la deuxième épître à Timothée, c'est l'épître des points d'appui. C'est une épître qui est écrite pour le temps où l'assemblée est devenue la grande maison. Le moment où il faut se séparer, où il faut sortir, se séparer de l'iniquité. Le moment où Dieu nous dit, voici, je connais, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. C'est le solide fondement de Dieu qui demeure, même alors que tout est ébranlé tout autour. Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Et le Seigneur connaît ceux qui sont siens, pardon, première face du sceau. Deuxième face, qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors, quels sont les points d'appui? Nous en citerons rapidement quelques-uns dans cette seconde épître à Timothée. Ces points d'appui que le Seigneur nous donne pour des temps de ruine, pour des temps de déclin complet. Eh bien, nous avons, par exemple, chapitre 2 de 2 Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Verset 7, considère ce que je te dis. Verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile. Et puis nous voyons que Timothée est traité ici comme un de ces sages dont nous avons parlé dans le livre de Daniel. Remets ces choses en mémoire. Expose justement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, etc. Et nous pourrions continuer à lire à travers, au cours de cette épître, et quelques-unes de ces exhortations qui constituent, comme nous le disait notre cher frère, des points d'appui pour nous, pour notre foi, dans ces temps troublés auxquels nous sommes parvenus. Et ces points d'appui, quels sont-ils? Ils se résument en un mot, le nom d'une personne, Christ. Appuyons-nous sur lui. Dans les détresses où nous sommes, nous n'avons pas d'autres ressources que lui. Nous pouvons nous trouver placés dans des situations inextricables. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Il est inutile d'être abattu, il est inutile de nous agiter. Il n'y a qu'une seule solution, c'est Christ. Nous adresser à lui par la prière, le prier, le supplier, et le faire individuellement, le faire peut-être en assemblée, mais le faire non pas en étalant notre misère devant tous et devant chacun, mais dans notre cœur, et pencher notre cœur, notre âme, non pas au-dedans de nous-mêmes, mais dans le cœur du Seigneur. Alors nous passons donc à cette seconde partie, et alors cette fois-ci ce sont les épreuves qui viennent. La leçon n'est peut-être pas tout à fait achevée, Dieu achève complètement l'œuvre qu'il commence dans les siens. Alors Christ va être sa seule ressource, et le croyant va apprendre alors à jouir de cette ressource au milieu même de l'adversité, au milieu même de la tribulation, de cette tribulation dont nous avons parlé tout à l'heure. « Il me souvient de toi » depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mitzéar. Nous savons tous que le Jourdain est le fleuve de la mort, c'est une figure de la mort. Là, cela encore, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises. Le Jourdain et les Hermons. Les Hermons sont une haute montagne qui se trouve placée au nord de la Palestine et dans laquelle, semble-t-il, le Jourdain a ses sources principales. Alors nous voyons la liaison qu'il y a entre le Jourdain, fleuve de la mort, et les Hermons, liaison qui apparaît d'autant plus claire si nous pensons que la racine du mot Hermon est la même que celle de Horma, mot que nous trouvons dans l'Écriture et qui signifie entière destruction. La montagne nous parle d'une grande puissance, et d'une grande puissance qui a en vue quoi donc? De détruire le peuple de Dieu. Alors il y a deux choses, il y a le pays du Jourdain, qui est le pays de la mort, il y a cette puissance qui se dresse, cette puissance hostile, qui se dresse contre le peuple de Dieu dans le but de le détruire, et puis il y a aussi la montagne de Mitzéar. Et nous pensons que la montagne de Mitzéar présente quelque chose d'un peu différent, un aspect différent. La montagne de Mitzéar, c'est une petite montagne ou une montagne de petitesse. Nous retrouvons tous, bien sûr, la terminaison de Séar, le mot de Soar, cette ville dans laquelle Lot s'était réfugié, en disant « n'est-elle pas petite ?» Et c'est pourquoi on a appelé son nom de Soar. Alors ce sont de petites montagnes, ou comme on l'a dit, des montagnes de petitesse. Que signifient-elles? Eh bien, elles sont là pour nous parler de la nécessité pour nous d'être abaissés par l'épreuve, de prendre conscience de notre petitesse, prendre conscience de notre néant. Et c'est alors dans cette conscience-là que nous allons rencontrer, que le résidu va rencontrer, les tribulations qui sont décrites d'une manière symbolique au verset 7. « Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. » Alors nous comprenons ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur dit plutôt à l'avance, à son peuple, à son résidu fidèle, une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Nous passons au verset 8 et nous trouvons ici alors comme un prélude à la délivrance. De jour, l'Éternel commandera sa bonté et de nuit, son cantique sera avec moi, ma prière au Dieu de ma vie. Alors quel est le jour? Nous pensons que c'est précisément le jour dont le résidu attendra l'arrivée, le jour précisément du règne de Christ, le jour de ce jour merveilleux où celui qui domine parmi les hommes régnera, il sera comme un matin sans nuage, comme le soleil qui lui, un matin sans nuage. Par sa clarté, l'herbe tendre germe après la pluie. C'est la bénédiction, le règne de la bénédiction, de la paix et de la justice que le Seigneur Jésus va établir. Et au milieu de ses souffrances, au milieu de cette épreuve, instruit précisément par ses sages, qui lui font connaître la pensée de Dieu et qui peuvent dire à ceux qui sont éprouvés, prenez courage, ces épreuves ne sont que le prélude nécessaire, et nous pouvons dire aussi le prélude mérité pour ce qui nous concerne, à l'établissement du règne de justice et de paix, à l'arrivée de ce jour merveilleux que nos cœurs attendent et qui est l'arrivée du Messie sur la terre. Alors ne confondons pas ce qui nous est dit ici, il s'agit du règne de Christ pour les Juifs sur la terre, du règne de 1000 ans, il ne s'agit pas de la venue du Seigneur pour nous. Et puis, nous trouvons ensuite la nuit. De nuit, son cantique sera avec moi, ma prière au Dieu de ma vie. Et sans doute revenons-nous un peu en arrière, aux circonstances actuelles du résidu sous la tribulation, sous l'épreuve, c'est la nuit. C'est la souffrance. Et alors, que se passe-t-il la nuit? Bon, pensez à ce passage de Job. Je crois que c'est Élihu qui dit à Job, « On crie à cause de la multitude des oppressions. » Et on ne dit pas, « Où est Dieu, mon Rédempteur, qui donne des chants de joie dans la nuit ?» C'est une chose extraordinaire que de pouvoir trouver des chants de joie lorsque nous sommes dans la nuit de l'épreuve, dans la nuit de la souffrance. Pourquoi peut-il y avoir de tels chants? Parce que précisément, il y a Dieu mon Rédempteur. Celui qui les donne, ces chants de joie, c'est lui. Et comment le fait-il? Quel est le thème? Nous n'en pouvons douter de ces chants de joie que Dieu nous donne dans la nuit. Eh bien, c'est de réaliser que dans ces souffrances que nous rencontrons, que nous traversons, et cela est vrai aussi bien pour nous chrétiens que pour le résidu à ce moment-là, Eh bien, Christ est avec nous, Christ est auprès de nous. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ah, son peuple, il fait dire par le prophète, dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. Et ce sera précisément pour une merveilleuse préparation pour le règne de Christ, pour accueillir le Sauveur qu'ils désirent, le Roi qu'ils attendent. Ce sera une merveilleuse préparation pour eux que d'avoir éprouvé que, précisément dans toute leur détresse, il a été en détresse, que ces détresses qu'ils traversent, lui-même le Seigneur, leur Christ, leur Messie, les a connus, les a anticipés, les a portés. Il a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. C'est le 53 d'Ésaïe. Et le 53 d'Ésaïe, nous le savons bien, c'est précisément ce dialogue entre Dieu et le résidu au sujet de son bien-aimé. C'est le thème, c'est un exemple remarquable de ce qu'est la louange, de ce qu'est un culte. Dieu nous parle, il nous parle de son bien-aimé. Et qu'allons-nous faire? Mais nous allons répondre. Et pour que nous puissions répondre à Dieu, que faut-il? Mais il faut que notre cœur soit rempli. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et de quoi notre cœur va-t-il être rempli? De qui allons-nous pouvoir parler à Dieu? Lorsqu'il nous dit, voici, mon serviteur agira sagement, il sera exalté, élevé, placé très haut, il parle de son bien-aimé, alors le résidu va répondre à son tour. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et ce sont là précisément, c'est là précisément, le ministère de ces sages, de ces maskilim, dont nous avons parlé tout à l'heure. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Et le premier des sages, le grand maskilim, le grand maskil par excellence, si je puis ainsi parler, qui est-ce? Mais c'est Christ lui-même, parce que précisément, vers la fin de ce 53 d'Ésaïe, que lisons-nous? Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. Alors dans l'épreuve, qu'il s'agisse de l'épreuve à venir pour le résidu d'Israël, qu'il s'agisse des épreuves qu'Israël a connues au cours de son histoire tourmentée, qu'il s'agisse des épreuves que les saints de la période de la grâce ont connues et connaissent au cours de l'histoire si troublée et agitée de l'Église, eh bien là, il y a toujours cette consolation, toujours cet encouragement, la présence du Seigneur, les sympathies de Christ. Un Seigneur, un Sauveur, un souverain sacrificateur, celui qui peut nous dire dans la profondeur de son amour, si vous allez être éprouvés, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Un cantique dans la nuit. Et puis alors, verset 9. Verset 9, c'est de nouveau la paix. C'est l'épreuve qui a produit son fruit, pouvons-nous dire, dans le cœur de ceux qui l'ont traversé. Je dirai à Dieu mon rocher. L'âme peut s'adresser à son Dieu, s'adresser à lui en toute paix, s'adresser à lui en le reconnaissant, en réalisant qu'il est toute sa force, celui en qui il peut s'appuyer. L'Éternel est mon rocher, est-il dit ailleurs, un appui, un refuge, toujours facile à trouver. Je dirai à Dieu mon rocher. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi marchais-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi? Alors ce sont des questions, de simples questions que le fidèle pose à son Dieu avec humilité, avec le désir. Il ne s'agit pas, nous ne pensons pas qu'il y ait là, bien loin de là, un reproche adressé à son Dieu, mais bien plutôt une question. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi marchais-je en deuil à cause de l'oppression de mes ennemis? Pourquoi as-tu permis toutes ces choses? Est-ce que cela ne nous rappelle pas la parole de Marie de Béthanie, lorsque elle vient au pied du Seigneur à l'occasion de la mort de Lazare? Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une simple parole. Elle s'adresse au Seigneur et en quelques mots, elle lui exprime toute la douleur, toute la souffrance de son cœur. Il n'y a pas là cette nuance de reproche que nous trouvons dans les mêmes paroles prononcée par sa sœur, mais précisément sa sœur qui vient au Seigneur dans son agitation, comme nous le voyons. Les questions que nous pouvons poser au Seigneur et auxquelles il se plaît à répondre. Voyez l'ange qui descend pour rencontrer Gédéon, qui balbe froment dans son pressoir. L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et une conversation pleine de grâce s'engage entre l'ange et Gédéon. Et Gédéon dit au Seigneur, s'il en est ainsi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? En voilà une question que nous pouvons poser au Seigneur. Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées? Nous pouvons bien nous demander de poser de telles questions aujourd'hui. Dire au Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, venir à lui, dans l'intimité d'une heureuse communion, lui dire, Seigneur Jésus, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont annoncées? Où sont toutes ces choses, tout ce que nous avons reçu, toutes ces promesses, tout cet enseignement précieux et béni que nous ont annoncé nos conducteurs, qui nous ont annoncé la parole de Dieu? Qu'avons-nous fait de toutes ces choses? Pourquoi marchais-je en deuil à cause de l'oppression de mes ennemis? Et voilà une chose, voilà une attitude et un état d'esprit, un état de cœur qui est souhaitable et précieux, marcher en deuil, peut-être à cause de l'oppression des ennemis, mais qui sont ces ennemis? Ce sont les ennemis de Dieu lui-même, ce sont les ennemis de Christ, ces ennemis sont les nôtres. Alors nous pouvons, bien sûr, en toute liberté, ouvrir nos cœurs devant lui et lui dire « délivre-nous », lui dire, comme cela est exprimé ailleurs dans la parole, « non point à nous, mais à ton nom donne gloire ». À cause de ta bonté, à cause de ta vérité, c'est le thème précisément de ces intercessions magnifiques de Moïse en faveur de son peuple, en faveur du peuple d'Israël. Pense à ta gloire, pense que feras-tu pour ton grand nom. Seigneur, mais que suis-je moi, Moïse? Mais souviens-toi de tes promesses envers ton peuple Israël. Que vont penser les ennemis? Ils vont dire, mais parce que Dieu n'a pas pu les introduire dans le pays de Canaan, alors il les a détruits en chemin. Mais non, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il en soit ainsi. Souviens-toi de tes promesses, souviens-toi de ta grâce, souviens-toi de ton amour, délivre-nous. Et que de foi, Dieu a répondu d'une manière merveilleuse aux supplications de son serviteur. Mes adversaires m'outragent comme un brisement dans mes os quand ils disent tout le jour, où est ton Dieu? C'est la deuxième fois que nous trouvons cette question dans le livre, dans ce psaume, dans ce court psaume 42. Mais il me semble que cette scène, ces expressions, ce verset, nous amène au pied de la croix. Nous avons dit tout à l'heure que les ennemis du peuple d'Israël, comme les ennemis de l'Église aujourd'hui, sont les ennemis de Christ. Et à la croix, Seigneur a vu devant lui tous ses ennemis. Le mal a abondé. Ils sont passés devant lui, hochant la tête et disant, si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Si Dieu prend son plaisir en lui, qu'il le délivre, car il a dit, je suis fils de Dieu. Où est ton Dieu? N'avons-nous pas là un écho dans cette question à ces paroles de moquerie que, un peu plus tard, ce malheureux peuple va adresser à son Messie rejeté et crucifié? Et alors, ne pouvons-nous penser que de telles paroles, rappelées précisément au cœur du résidu, pour le préparer, comme nous le lisions tout à l'heure, à recevoir son Messie, de telles paroles auront dans leur cœur un accès, une puissance extraordinaire. Mais où est ton Dieu? Mais qu'avons-nous fait à notre Messie? Qu'avons-nous fait de lui? Alors nous avons rappelé encore récemment, ce sont des privilèges qui nous ont été accordés. Ces paroles du prophète Zacharie. Ils regarderont à moi celui qu'ils ont percé et ils se lamenteront. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est le salut de ma face et mon Dieu. Ce sont à peu près les mêmes termes que ceux du verset qui conclut la première partie, mais ici nous voyons que ce n'est plus sa face est le salut, mais il est le salut de ma face et mon Dieu. Il y a un progrès qui a été fait, un progrès du même ordre que celui que fait la bien-aimée du Cantique des Cantiques dans la connaissance de son bien-aimé. Première expression que nous trouvons, mon bien-aimé est à moi. C'est quelque chose d'infiniment précieux. Mais deuxième expression, je suis à mon bien-aimé. Et je crois que c'est là toute la différence qu'il y a entre penser qu'on aime le Seigneur et réaliser qu'on est aimé par lui. Pierre pensait aimer le Seigneur, mais Jean était le disciple que Jésus aimait. Et nous connaissons tous les derniers, par les évangiles, les derniers instants que le Seigneur Jésus a passé sur la terre et ce qu'il en est advenu de Pierre et de Jean relativement au Seigneur dans ces derniers moments. D'un côté, Seigneur, j'irai avec toi en prison et à la mort. D'un autre côté, un disciple qui s'efface, un disciple qui se fait oublier, un disciple qui ne se nomme jamais par son nom tout au long de cet évangile, sinon par ce nom de disciple que Jésus aimait, et un disciple qui va être par conséquent tout prêt lorsque l'épreuve aura été terminée. L'épreuve qui va d'une manière toute particulière atteindre la discipline, plutôt, disons pour être exact, la discipline que son Seigneur dispense à Pierre, eh bien cette discipline agit tout d'abord dans le cœur de Jean. Lorsque le Seigneur dit « Toi, suis-moi », s'adressant à Pierre, Jean, sans un mot, en silence, se lève pour suivre le Seigneur. Et c'est cela la discipline à laquelle tous participent. C'est cela ne pas prendre part à la discipline dans laquelle, par laquelle passe tel ou tel de nos frères, ne pas y être indifférent, mais en retirer pour nous-mêmes l'enseignement, nous associer à celui qui souffre, prendre sur nous. Il y a plusieurs formes de discipline et plusieurs raisons pour lesquelles il y a la discipline, mais nous associer, réaliser que nous sommes un seul corps, que quand un membre souffre, tous souffrent avec lui, que quand un membre est glorifié, tous se réjouissent. Réaliser ce qu'est véritablement cette communion qui nous unit les uns aux autres. Et où a-t-elle sa source, cette communion? Eh bien, notre communion est dans le Père, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La source est là. N'inversons pas les choses. Ne pensons pas que nous aurons communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ dans la mesure où nous aurons communion les uns avec les autres. Ne pensons pas que nous aimons les enfants de Dieu parce que nous les aimons. C'est encore un de ces passages remarquables auxquels nous avons peut-être pu penser pendant ces dernières études. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Comment le savons-nous? Est-ce que c'est en faisant toutes sortes de choses pour eux, en nous mettant à leur service, en étant dévoués pour tout ce qui les regarde, en nous intéressant profondément à toute leur situation? Non. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et si nous gardons ses commandements. Voilà l'ordre divin. Dieu d'abord, Dieu, le Seigneur Jésus, et puis après, nous-mêmes. Si le Seigneur remplit nos cœurs, si nous aimons celui qui nous a aimés le premier, alors tout naturellement, mais l'amour dont Christ remplit notre cœur pourra se déverser sur ceux qui nous entourent et que nous pourrons alors aimer en vérité. Il y a encore à ce sujet un passage, c'est peut-être un peu en dehors de notre sujet, je désire quand même le citer, parce qu'il est important, parce qu'il met les choses à leur place. Ayant purifié vos âmes, épître de Pierre, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. Première chose, aimez-vous ardemment d'un cœur pur. L'amour ardent d'un cœur pur n'est possible que si préalablement nous avons purifié nos âmes par l'obéissance à la vérité. Pourquoi es-tu abattu? Je ne reviens pas sur cette conclusion, excepté pour souligner, comme nous avons essayé de le faire, la différence qu'il y a dans les dernières paroles de cette conclusion. Mais je voudrais, pour terminer, rappeler à nos cœurs que si nous avons pu dans ce psaume voir quelque chose des souffrances qui vont être la part du résidu, et ce qui est symbolisé par les vagues et les flots qui ont passé sur lui, nous pensons bien qu'il n'y a là qu'une expression affaiblie des souffrances qui ont été la part de Christ, bien affaiblie. Il y a bien sûr les souffrances de Christ en sympathie avec son peuple, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, les vagues et les flots que traverse le peuple d'Israël, que traverse le résidu fidèle, comme aussi ce que nous pouvons connaître nous-mêmes, ce sont des choses dans lesquelles Christ est entré en sympathie pour nous, avec nous, qu'il traverse avec nous en sympathie. Mais il y a les souffrances uniques, les souffrances inexprimables, les souffrances que le Seigneur n'a pu partager avec personne, les souffrances de l'expiation. Les souffrances qu'il exprime d'une manière extraordinaire dans le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parole qui est reprise dans les deux premiers évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, qui nous présentent, comme nous le savons, le sacrifice de Christ sous son caractère de sacrifice pour le péché et de sacrifice pour le délit. Pourquoi nous avons cette expression-là dans ces deux évangiles? Et nous savons bien aussi que
Le psaume 22, dans sa première partie, nous présente les souffrances de Christ en expiation, Christ s'offrant comme sacrifice pour le péché. Alors il y a ces souffrances-là, que nous ne devons jamais oublier. Ces souffrances qui nous parlent de tout l'amour de Christ. Et lorsque nous contemplons la mort du Seigneur, et c'est encore une des précieuses bénédictions, un des précieux encouragements qui nous est donné toutes les fois que nous rompons le pain et que nous buvons à la coupe et que nous annonçons la mort du Seigneur. Alors, nous pensons à l'amour de Christ pour nous. Nous pensons à son dévouement pour Dieu. Et nous entendons alors peut-être d'une manière pratique l'exhortation qui nous est donnée dans l'Épître aux Éphésiens. Exhortation et puis consolation, encouragement pour remplir les conditions de cette exhortation. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez dans l'amour. Alors l'Épître, l'apôtre, l'Esprit Saint ne s'arrête pas là et il ajoute « Comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. » Et ainsi, la puissance, la raison et la puissance que nous avons pour marcher dans l'amour, comme de bien-aimés enfants de Dieu, nous la trouvons dans la contemplation et dans la place que le Seigneur Jésus occupe dans nos cœurs, comme aussi le Christ nous a aimés. Il n'y a pas de mesure à l'amour de Christ. Il n'y a qu'une mesure à l'amour de Christ, celle de l'amour du Père pour lui. Mais rien d'autre ne peut y être comparé. Mais quand il nous est dit « nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier », je crois qu'il y a là pour nous un encouragement, une bénédiction d'un prix inestimable. Alors, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, et nous retrouvons encore cette pensée à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure en parlant de la scène du Seigneur, il y a ce qui est pour nous, il y a ce qui est pour Dieu, pour la satisfaction du cœur de Dieu, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Alors ainsi, toutes nos pensées remontent vers la personne de Christ. Tout ce que nous pouvons avoir le privilège, tout ce que la grâce de Dieu peut faire dans nos cœurs pour que nous marchions à sa gloire dans l'espérance du retour du Seigneur, eh bien, quelle en est la source, quelle en est la puissance? C'est l'amour de Christ en nous. Demeurez dans mon amour, nous dit le Seigneur Jésus. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Voilà la bénédiction suprême que le Seigneur désire pour nous. Je voudrais ajouter encore une dernière pensée. Tout au cours de ces entretiens que nous avons eus et que nous avons envisagés, nous avons vu des passages extrêmement précieux qui nous ont parlé donc de la discipline, qui nous ont présenté des exhortations quant à notre marche pratique ici-bas, quant au fait que nous sommes des adorateurs qui avons le privilège d'offrir à Dieu sans cesse les sacrifices de louange, le fruit des lèvres qui confessent le nom du Seigneur Jésus. Il y a une pensée que nous désirons ajouter à celle-ci et qui est la consolation de nos cœurs, c'est l'imminence du retour du Seigneur. Il y a peu de choses aussi tristes que d'entendre un enfant de Dieu parler de ce qu'il fera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Peut-être bien que dans son cœur, ce croyant fait cette restriction, si Dieu le veut, si le Seigneur n'est pas venu. Mais n'est-ce pas nous exhorter sur notre très sainte foi que de nous rappeler les uns aux autres, le Seigneur vient. Amen. Viens, Seigneur Jésus.
« 248